CV.
Sur la scène intermondiale.
Un CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Absolument important ce qui vient de se passer sur nos ondes. Merci à nos producteurs qui prennent toujours le temps de faire ce genre de choses-là. Oui, 80 ans du débarquement de Normandie, c'est des choses à souvenir, c'est des choses à commémorer. Il y a énormément de petites commémorations, de grandes commémorations, d'hommages, de saluts et de remerciements à faire là-dedans. Puis ça se fait à travers le monde. Hein. On voit des images en Europe, on voit des images ici au Canada, aux États-Unis. C'est le temps, je pense, de saluer, de remercier tous nos militaires qui se dévouent en fait à ce genre de cause-là. Quand l'humanité se fractionne, quand l'humanité se perd au détriment du pouvoir, au détriment de lubies, au détriment de contrôle, ça mène à des guerres. On l'a vu à travers le temps, on l'a vu à travers l'histoire, on en parle aussi. Puis il ne faut pas arrêter d'en parler. Hein. C'est des journées absolument importantes. Il y a des proches qui ont perdu des âmes sœurs, il y a des proches qui ont perdu de la famille, des amis. Ils ont perdu des éclats de rire, ils ont perdu des partages très précieux. Puis au-delà de ça, bien, même les gens qui sont revenus de certaines guerres sont revenus avec des pertes personnel, autant au niveau cognitif, mental, physique. Puis au-delà de ça, bien, ils ont des pertes de temps aussi parce qu'ils se dévouent à travers le temps pour protéger ce qu'on appelle une nation, du moins la nôtre, nous protéger même individuellement, collectivement. Puis c'est par des dévouements comme ceux-ci qu'on peut peut-être avoir le rythme de vie, le mode de vie et la vie tout simplement qu'on a en ce moment. Je pense que ces saluts-là se font pour les vétérans, les anciens militaires, bien sûr, mais aussi ceux qui s'enrôlent encore et ceux qui sont au sein de l'armée canadienne et de toutes les armées, finalement, même celles qui ont été nos alliés là-dedans. Ils ont vécu des moments plus vivants, malgré tout, qu'on n'aura jamais vécu. Et je le dis dans le sens positif du terme, mais pour quand même souligner le sens négatif du terme. Si je peux vous faire une recommandation de film qui est assez poignant, malgré que ça soit un film, c'est Dunkerque. Il y en a plusieurs des films sur les guerres mondiales, sur le débarquement de Normandie aussi. Mais Dunkerque est sorti en 2017 et c'est une revue de tout ce qui s'est passé autant sur l'eau, dans les airs que sur la terre. C'est très immersif. Je dois vous dire que si vous avez un bon système de son, vous êtes chanceux pour écouter ce film-là qui est sorti au cinéma il y a quelques années déjà. Oui, assurément, c'est un film américain, mais je me souviens d'être complètement subjuguée en sortant de là et je me suis gardée quelques années de différence entre le moment où je l'ai écouté puis celui où je l'ai réécouté pour m'en refaire une tête, pour le réapprécier. Et ça a été encore très, 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 très choquant dans toutes les manières de le dire, pour le mot choquant, à quel point je trouve que c'est une réussite. C'est sûr que sauver le soldat Ryan, c'en est un autre. Si vous avez des suggestions, 88-971-1021. Et vous allez entendre dans nos émissions aujourd'hui des rappels importants face à ces gens-là qui nous défendent et qui ont pris tout le courage qu'ils pouvaient prendre dans leur petit sac à dos pour justement prendre part à ce débarquement de Normandie-là qui laisse des traces indélébiles à travers le temps. Ça fait 80 ans, je vous rappelle, c'est pour ça qu'on en parle dans les médias. C'est un devoir collectif qu'on a. Et si vous voyez des militaires, si vous en croisez, qu'ils soient en fonction ou qu'ils soient vétérans, un beau bonjour, une belle salutation, ça ne coûte rien. Mais je pense que ça veut tout dire, probablement. Des remerciements aussi. Il y a Maryse qui nous fait signe que la série de Claude Legault qui anime sur la Deuxième Guerre mondiale, tant qu'à l'implication du Canada dans cette guerre-là, est très, très intéressante. C'est vrai. Quelqu'un qui nous parle aussi d'un film très immersif. C'est vrai, 1917, je l'ai vu. C'est un autre excellent film qui est sorti dans les dernières années. Première Guerre mondiale et Guerre de la tranchée. C'est à voir, puis ça nous permet de comprendre aussi la réalité de ces gens-là. Juste le camp, là. Si, admettons, on réduit à sa plus simple expression le dévouement physique et mental des militaires, juste le camp qu'on a à Saint-Jean-sur-Richelieu, OK, que les militaires font avant d'entrer justement dans les rangs de l'armée canadienne. Hey, Je ne sais pas si vous aviez vu dans le temps, sur Tout.tv, c'est Radio-Canada qui avait suivi justement ces recrues-là, et ça s'appelait recrue. Puis tu avais recrue générale, tu avais recrue infanterie. Allez jeter un coup d'œil là-dessus, c'est encore disponible sur Tout.tv. C'est vraiment excellent, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas assez parlé de ça, mais on voit là à quel point physiquement et mentalement, c'est une implication hors pair. Les textos entrent, ça n'a aucun sens. Pour la série de Claude Legault, c'est sur tv5uni.ca. Vous allez voir ça en sol canadien. Les saisons sont disponibles. Quelqu'un qui dit « La meilleure série sur le débarquement de Normandie est Band of Brothers. » Merci Jean-Marie, si jamais ça vous intéresse. Pierre qui dit « Mon grand-père était dans les suivants pour rejoindre le front au moment où la guerre s'est terminée. Sans la réussite de ce débarquement, il y a plein de choses qui ne seraient pas pareilles aujourd'hui et peut-être même pas et je ne serais peut-être même pas présent. » C'est vrai, pareil, ce que Pierre dit. C'est vrai. Quelqu'un qui dit « À l'Ouest, rien de nouveau. Solide film de guerre. » C'est vrai. C'est vrai. Puis là, nous, on en parle pas nécessairement que pour le divertissement, là, dans toutes les suggestions que j'ai, parce que moi, ça fait partie d'un créneau que j'aime, autant pour le caractère historique, le caractère de divertissement, oui, mais d'apprentissage, puis le caractère humain de ces films-là, c'est vraiment un créneau que j'apprécie, tu sais. La vie est belle, ça reste qu'on est dans un camp très important de la Deuxième Guerre mondiale, hein, un camp où les Juifs étaient amenés, en fait, puis on l'amène d'une manière assez poétique, intéressante, où c'est un père qui est déporté là avec son fils, et pour ne pas traumatiser son fils, il me fait semblant qu'ils sont dans un jeu. Donc, tout ce qui s'y passe, c'est vraiment un jeu, puis qu'ils doivent survivre à tous les jours dans ce jeu-là, mais pas survivre au sens exact du terme aux yeux de l'enfant. Pour lui, c'est pas un combat de survie, c'est vraiment, une compétition, là. Mais c'est absolument merveilleux, ce film-là, si vous ne l'avez jamais vu aussi. Mais ça nous amène dans ces atrocités que beaucoup ont vécues et que nous, on n'a pas vécu puis qu'on ne vivra probablement jamais, mais qu'on doit se remémorer. Des gens qui disent Dunkerque est sur ma liste à regarder. Regardez-le, honnêtement. Si vous pouvez me revenir là-dessus, ce serait vraiment intéressant de vous entendre. Alors, on est dans l'heure CV à 10h10. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Pascal. Je m'appelle Pascal CV. Voilà pourquoi c'est l'heure CV. On est ensemble jusqu'à 11h. Dans quelques instants, on reçoit Émilie Pelletier, la journaliste au Soleil. Parce que si vous n'avez pas suivi le sujet, c'est plus cher pour le Festival d'été de Québec en 2024. Et sous sa plume, elle a signé un article aujourd'hui très intéressant sur justement tout ce qui se passe au niveau monétaire pour le FEC. On va aller lui jaser. Je sais qu'elle est à quelques minutes d'une conférence de presse avec le maire Marchand, donc on devait faire ça rapidement avec elle. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission. Je vous souhaite la bienvenue à Boulevard 102.1 si jamais vous venez de vous brancher. Le proverbe aujourd'hui, le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais une façon de voyager. Mettez ça dans votre poche. Hey, bon jeudi. Visite nocturne, les trois accords.
Financez votre nouveau solarium ou gazebo à 0% sur 12 mois avec Solarium International. Entouré de la nature à l'année, profitez de l'extérieur. Venez nous voir à Québec. solariuminternational.com.
La formation continue du cégep de cette fois présente dans l'antre des super-héros.
Nos bureaux sont envahis. Les intrus aux fausses identités sont entrés dans nos systèmes.
Ne craignez rien. Nous anéantirons nous-mêmes la menace. Grâce à nos super-pouvoirs de protection et sécurisation, nous les bannirons.
Devenez ce super-héros avec l'AEC de spécialisation en sécurité informatique de la formation continue du cégep de Sainte-Foy. Vous apprendrez à sécuriser des systèmes informatiques, contrer des cybermenaces, installer un réseau privé et plus. Courage, Rocky. Détails au vousbrillez.ca.
It's time! L'heure CV avec Pascal CV.
On est de retour à l'émission Sous le soleil à l'extérieur à Québec. Il y en a des choses qui se passent dans la ville. Et pour en parler, ben justement, il y a des gens qui le couvrent, hein, tout ce territoire-là de la capitale nationale. Et il y en a une que vous connaissez, que vous lisez probablement régulièrement du côté du soleil. Elle s'appelle Émilie Pelletier. Elle est au bout du fil et je veux parler avec elle de l'argent qui est investi lors du Festival d'été de Québec en 2024. Salut, Émilie.
Salut Pascal, ça va bien?
Ça va très bien, merci de te rendre disponible. Je sais là, que tu es entre deux points de presse, dont un du maire Marchand ce matin. Sous le soleil, oui, mais tu prends du temps avec nous dans l'heure CV pour jaser de ton dernier texte dans le soleil. Parce que tenir le Festival d'été de Québec, on peut s'en douter que ça coûte extrêmement cher. Bien sûr, on a des, oui, on a des commanditaires, mais on a connu une année inflationniste qui a impacté un peu tout le monde finalement. Puis quand on lit ton texte ce matin, on se rend compte que c'est très, très, très cher à voir ce festival d'été de Québec-là. Les cachets des artistes, entre autres, qui ont augmenté, des dépenses aussi qui sont en hausse depuis la pandémie. C'est quoi ton premier constat, Émilie, là-dessus?
Bien, effectivement, le premier constat, c'est exactement comme tu l'as dit, c'est que le Festival d'été de Québec n'échappe pas finalement à cette tendance-là des coûts qui sont à la hausse, autant en termes, justement, comme tu l'as mentionné, des cachets des artistes, hein, parce que ces gens-là qui partent en tournée, qui viennent nous visiter ici à Québec, bien, évidemment, ils doivent faire leurs frais comme tout le monde. Donc, ils refilent une part de la facture au festival qu'ils visitent. Il y a également tout ce qu'on appelle les coûts techniques, ce que le festival d'été décrit comme étant les coûts de production, donc scéniques, également tout le coût de toutes les opérations terrain. On peut penser à la main-d'œuvre, on peut penser à tout ce qui est déployé sur le terrain pour tenir cet événement-là pendant une dizaine de jours à Québec. Donc, voilà le festival d'été qui est pas épargné, finalement, tout comme nous, il s'en ressent. C'est quand même une augmentation de près de 6 millions du budget par rapport à l'année dernière. Donc, on en arrive à un budget assez imposant, tout près de 50 millions de dollars pour l'édition qui se déroulera en juillet 2024, précisément 49,6 millions.
50 millions, c'est pas avec justement les passes des festivaliers qu'on réussit à rentabiliser ça, là. C'est peut-être pour ça qu'on a vu pousser, en fait, puis c'est de très belles initiatives malgré tout, mais toutes les scènes, comment ça s'appelle, le jardin, ou encore les petits cubicules qui sont vendus à des entreprises à coût de quelques milliers de dollars. Est-ce que c'est comme ça qu'on a tenté d'aller colmater les hausses importantes année après année qu'on a à débourser pour continuer d'avoir ce festival-là très important dans la ville de Québec?
Bien sûr, j'imagine je veux rester prudente parce que le festival d'été se montre quand même discret.
Oui.
Sur tout ce qui est d'aspect budgétaire. Mais bien sûr, je peux m'imaginer qu'il y a une espèce de diversification des revenus qui doit être mise en place pour continuer de tenir cet événement-là, qui est quand même le plus populaire de l'année à Québec. Donc, il y a bien sûr des commanditaires. J'écrivais également dans le texte que, année après année, le Festival d'été de Québec reçoit également des subventions de tous les paliers de gouvernement.
Parce qu'on a prouvé que c'était populaire, on a prouvé que les gens voulaient être là, on a prouvé qu'on faisait on avait une belle diversité d'artistes aussi, puis qu'on faisait rayonner ceux du Québec aussi.
C'est ça. Donc, tous les paliers gouvernementaux, autant municipal, provincial que fédéral, soutiennent cet événement-là. Par exemple, du côté de la Ville de Québec, à elle seule, c'est une aide de 700 000 $ là, en subvention qu'on lui donne. Ça représente environ 1,4% du budget total de l'événement. Bien sûr, les paliers supérieurs financent de façon plus importante. Mais donc, il y a aussi une part des revenus qui est tirée là. Et puis, comme tu l'as mentionné, bien, le coût du laisser-passer augmente légèrement chaque année, hein. Encore là, le Festival d'été nous dit qu'il nous épargne en nous refilant pas l'ensemble de la facture. C'est une hausse, grosso modo, qui est tout de même modérée année après année et qui demeure quand même très accessible pour un festival d'une dizaine de jours. Faut se le rappeler.
Absolument. Mais moi, ce qui me fascine quand j'ai lu ton texte, Émilie, c'est quand tu en as parlé brièvement, mais les coûts techniques, les coûts liés à la production scénique, à l'ensemble des opérations terrain, tu sais, qui est en courbe vers le haut. Des fois, on se dit, pourquoi certains bands ont plus de pyrotechnie que d'autres, ont plus de lumière que d'autres? Probablement qu'eux arrivent avec une demande, en fait, de cachet, puis qu'individuellement, chacun des groupes s'assure de déployer l'artillerie lourde, si on veut, pour leur spectacle. Mais le Festival d'été de Québec doit probablement avoir certaines critiques par rapport à l'objet scénique de chacun des artistes. Et quand on dit que ça augmente, mais tout le monde tire un peu la couverture de son côté. Est-ce que tu as senti dans tes discussions avec Bleu Feu ou le Festival d'été de Québec, peut-être que cet événement-là serait, dans les prochaines années, à couteau tiré avec une programmation X, puis qu'on aurait de la misère à survivre, ou tu n'as pas senti ça du tout en parlant aux organisateurs?
Absolument pas. On reconnaît que la hausse des coûts est plus importante depuis le retour de la pandémie. Tu l'as mentionné d'entrée de jeu. C'est le reflet de l'industrie, en fait. C'est pas propre au festival d'été. Semble-t-il que dans le monde du spectacle, en général, les coûts sont en hausse. Puis comme on se disait, c'est le cas dans pas mal d'industries. Mm-hmm. Et puis non, moi, j'ai pas l'impression que le festival d'été souffre de ça, ou en tout cas devra faire des choix dans le futur, parce que encore là, on nous parle Quand on justifie la hausse des coûts, on nous dit également qu'on a procédé à des investissements importants dans les installations. Alors là, on nous donne pas tous les détails, on nous promet des annonces prochainement. Ça devra sans doute se faire bientôt parce que le festival d'été doit débuter dans moins d'un mois. Donc, bien hâte de voir de quoi il s'agira. Mais c'est ça, on nous parle d'investissements importants dans les installations. Encore là, est-ce que c'est pour répondre à des demandes des artistes? Est-ce que c'est au niveau de l'équipement? Est-ce qu'on est davantage... Dieu seul le sait. À ce stade-ci, je serais pas en mesure de dire. Mais il y a quand même eu des ajouts encore cette année. On parle notamment du retour de la scène de la place d'Youville, qui était absente depuis 4 ans maintenant.
Et c'était un réel manque, là. Ben, du moins, c'est une opinion qui m'appartient, mais c'est un réel manque. C'est une scène qui était gratuite, qui, lorsque tu montais vers, justement, les plaines d'Abraham, t'animais, en fait, puis souvent, tu découvrais des artistes, tout là. Tu t'arrêtais, puis tu te rendais compte que tu avais passé une heure à les écouter, puis avoir du plaisir. Le fait de ramener cette belle scène-là à la place d'Youville, qui est normalement gratuite, là, ça fait partie des dépenses supplémentaires, mais qu'on a justifiées pour l'attrait et le manque que les festivaliers avaient?
Exactement. C'est en plein ça. On y attribue une part des dépenses supplémentaires parce que cette scène-là, effectivement, revient de façon gratuite. Donc, ça s'ajoute à celle qui est également gratuite à la place de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça, bien évidemment, ça a un coût parce que les spectacles sont gratuits, mais il demeure qu'il y a un montage à faire de tous ces équipements. Il y a des gens qui travaillent pour assurer le bon déroulement des événements sur ces scènes-là. Donc, voilà le festival d'été qui lui attribue également une part des dépenses.
Merci beaucoup, Émilie Pelletier, au soleil, de t'être libérée ce matin pour nous parler de ton dernier texte. C'est super intéressant. Puis c'est vrai que, par la discrétion du Festival d'été de Québec puis Bleu Feu, on aurait d'autres questions à poser. Mais peut-être qu'on aura le temps un jour puis on aura les réponses à nos questions. Mais il faut savoir peut-être en terminant que 700 000 $ est donné par la Ville de Québec en financement pour le FEC, c'est environ 1,4%. Tu l'inscrivais très bien dans tes explications financières dans ton texte. Salut, Émilie. Bonne journée à toi.
Je vais te souhaiter d'avoir réponse à toutes les questions de la part de Bleu Feu. Il nous reste encore un mois pour faire la lumière là-dessus. Puis en attendant, on va souhaiter un bon festival d'été à partir du 4 juillet.
Oui, puis ce qui est quand même réconfortant là-dedans, c'est que ça reste un festival très accessible pour les festivaliers. On dirait qu'on protège malgré tout le prix de la passe à chaque année.
Ah oui, définitivement. Voilà. Merci, Pascal. Merci pour l'invitation.
Une bonne journée. À la prochaine. Émilie Pelletier, que vous pouvez lire dans Le Soleil. Elle couvre souvent tout ce qui est municipal. Beaucoup de points de presse aussi, mais elle sort des textes fort intéressants comme celui de ce matin. Est-ce que vous seriez prêt à payer plus cher, finalement, pour le Festival d'été de Québec? Tu sais, avec le fait que ça s'est envolé en une fraction de seconde, qu'il y a des gens qui ont fait la revente aussi sur Marketplace, qu'il y a des gens qui vendent, louent, en fait, leur passe de façon quotidienne avec un genre de une organisation, là, rendu là, c'est quasiment une business, une entreprise, à chaque jour avec un montant qui varie selon la popularité des artistes puisque les gens sont capables de payer. Est-ce que vous, en tant que festivalier, pour vous assurer un accès à ce festival-là, vous préféreriez payer plus cher votre laissez-passer ou on garde ces prix-là puis on vit avec le fait qu'il y a certaines petites business de coyotes puants qui se forment pendant le festival d'été mais qui permet justement d'aller voir des spectacles pour moins de 200 $ pendant 10 jours, puis des spectacles comme Motley Crue, Post Malone, 50 Cent pour cette année. La question est lancée, mesdames et messieurs. 88-971-1021 ou encore sur Twitch, parce que vous savez qu'on a des conversations tout au long des entrevues et de l'émission sur Twitch avec des caméras en studio. Faites juste rechercher la chaîne BLVD / FM.
Deux trios McDo pour CalCV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard 102-1.
Est-ce qu'il pleut à Québec? Ça a été une question qu'on s'est fait poser sur Twitch par un des auditeurs qui est camionneur. Salutations à Milton qui nous écoute à tous les jours et qui écoute toute la programmation. J'ai l'impression qu'on est un peu les amis de certaines personnes qui ont justement à travailler peut-être un peu loin, peut-être pas à Québec, puis par Boulevard 102.1, les sujets... Tout en fait, notre dynamisme ici à l'interne fait en sorte qu'on est une grande famille. Vous l'avez vu, on l'a ressenti aussi lors du show VIP avec Papa Roach, qui est encore disponible sur YouTube. Et en passant, production nickel. C'est nickel. On dirait sincèrement que c'est fait par des professionnels. Mais en fait, c'est fait par des professionnels parce que ça a été la scène Le Bourgneuf qui s'en est occupée finalement de cette diffusion-là. Et vous allez voir Reg patauger comme un poisson plus que dans l'eau. Hein. Il était vraiment dans sa rivière favorite, notre Reg. Il a été extraordinaire, mais fort impressionné. Donc, c'est disponible sur la chaîne YouTube de Boulevard 102.1. Mais oui, il fait soleil à Québec. 22 degrés, c'est ce qu'on a actuellement. Seulement 40 % de possibilité d'averse pour aujourd'hui. 25, c'est le maximum. Alors, on va aller peut-être chercher un petit 3 degrés de plus. Demain, vendredi, de la pluie, des averses et pas à peu près. Hauteur prévue de 30 mm. C'est pas rien avec des vents de 20 km/h. Le maximum sera plus bas, 18 degrés. Si vous avez emmagasiné de la chaleur dans votre chez vous avec des grandes fenêtres puis tout ce qui est rentré comme soleil dans les dernières heures, bien, ça va se rafraîchir de vendredi à lundi prochain. C'est un peu plate parce que je sais qu'il y avait le Red Bridge qui commençait demain du côté de Portneuf. On avait la grande vente à Limoilou, en fait, qui se passait samedi. Ça, c'est exceptionnel à chaque année, en fait. Les gens qui sortent des tables pliantes, qui vendent un peu de tout. Une grande vente de garage, c'est tellement le fun d'aller là. Je sais pas si vous avez cette passion-là, là. Moi, je l'ai, d'aller dénicher des affaires qui n'ont pas de sens. C'est surtout dans les ventes de garage un peu nichées. Hein, tu sais, il y a eu, je sais pas moi, ménages qui ont été faits dans des vieilles maisons. Puis là, tu tombes sur des vieux livres, des vieux Tupperware encore en bonne condition. Ça paraît étrange, mais les trouvailles que tu peux faire, c'est assez exceptionnel. C'est là où j'avais trouvé, et ça avait tellement fait rire les collègues, un vieux livre du Kama Sutra. C'était pas le Kama Sutra qui avait fait ça, mais un vieux livre érotique dans lequel les photos étaient assez explicites, merci. Puis tu te demandes tout le temps, qui a accepté de faire ça? T'es-tu mannequin tout nu, toi, pour un vieux livre de position sexuelle? Je pense pas que tu mets ça sur ton CV. Je sais pas comment est-ce que tu déniches les CV de ces gens-là, mais peu importe, ça existe. Dans ce livre-là, qui se voulait québécois, canadien, on disait que pour favoriser l'engouement de la chair et du plaisir de la chair, il fallait boire du lait de dromadaire. Je sais pas pour vous, mais je pense pas qu'on trouve ça assez facilement. Donc, il y a peut-être eu des gens très déçus après l'achat de ce livre-là, mais ça me faisait tellement rire. Puis, c'est des gens qui ont... C'est mes gens préférés parce qu'ils n'ont aucune pudeur à vendre ce genre d'affaires-là. Tu sais, déjà, le mettre sur la table de ta vente de garage, je vivrais avec un certain malaise. Je pense que si je voulais m'en débarrasser, bien, comme j'ai fait avec le livre, en fait, je l'ai caché dans la bibliothèque d'une de mes amies qui ne l'a toujours pas trouvé. Elle pense qu'elle lit, puis elle fait croire à tout le monde qu'elle lit, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de mensonge là-dedans. Si après plus d'un an, jamais elle n'a signalé l'incompréhension d'avoir ce livre-là dans sa bibliothèque. Mais quand tu arrives chez quelqu'un puis il y a une bibliothèque, est-ce que tu es comme moi puis tu t'en vas regarder un peu c'est quoi les livres, qu'est-ce que la personne lit? Ça te donne un peu le ton de sa personnalité puis ce qu'elle apprécie et tout. Moi, j'adore ça, me perdre dans une bibliothèque qui n'est pas la mienne. Mais je me dis, y a-tu des gens qui n'ont rien dit en regardant sa bibliothèque puis qui ont vu le vieux livre du Kama Sutra, sans Kama Sutra, fait boboche québécois? J'ose croire que ça a créé plusieurs malaises puis qu'il n'y a personne qui l'a signalé à mon ami. Mais pour revenir au fait que quelqu'un a décidé de le vendre cette fois-là, une pièce, c'est encore plus risible, c'est encore plus ridicule. 1$, je me souviens, j'y ai donné 2$ tellement que je trouvais ça extraordinaire d'avoir le courage de mettre ça sur une table de vente de garage, de s'assumer dans le fait qu'on avait déjà acheté ça plein prix, puis qu'on le revend même à 1$ sur cette vente-là. Magnifique. Si vous trouvez des petites perles comme ça, vous le savez, c'est une grande passion que j'ai autant sur Marketplace que dans les ventes de garage. Mais c'est ça. Ça pour dire que la pluie d'en fin de semaine va peut-être ruiner les plans d'une grande vente du côté de Limoilou. Moi, j'y allais, là, c'est sûr, si jamais il y a du soleil ou que c'est prévu malgré tout. Je vous parlais ce matin, brièvement, parce qu'on est allé dans un tout autre sujet avec les God Rage Against le matin, d'une nouveauté, en fait, le Netflix de l'intelligence artificielle. Récemment, les gars, justement, ont fait des genres de tests pour une création de chansons par l'intelligence artificielle. C'est triste quand même, là. C'est impressionnant de voir qu'on est capable de faire ça. J'ai encore le résultat de leur chanson ici, là, puis je vais vous le faire entendre. C'est impressionnant qu'on soit capable de faire ça avec certains mots-clés, puis qu'il y a une mélodie qui suive avec des paroles, puis finalement, la chanson, on pourrait l'écouter, là, puis ce serait pas trop gênant. Mais C'est aussi inquiétant parce qu'il y a des gens qui mettent du cœur, puis il y a de l'émotion, puis des paroles générées avec leur âme, si on veut. Puis finalement, ben, on aurait l'intelligence artificielle pour prendre la place. Mais ça a donné un résultat comme ça.
Dans les ruelles du Québec, on se quitte et on fait du vélo.
Je sais pas que c'est excellent,
là. La musique résonne dans les rues. La vie est belle, on est tous heureux. Mais quand les cafés s'ouvrent, les gens se rencontrent et s'amusent. On danse toute la nuit sans fin. C'est la vie à Québec, c'est bien. Vivre ma vie sans regret.
Je dis vraiment pas que c'est bon. Mais c'est pas épouvantable. Mais quelqu'un qui dit « Laisse-moi te montrer ce que c'est dans les ruelles de Québec », un peu louche. Alors, ça donnait ça. Avec quelques mots-clés, on était capable de demander à l'intelligence artificielle gratuitement de créer une chanson. Les gars vous ont présenté ça il y a peut-être un mois, là, je pense. Et je suis tombée sur un article dans le Forbes qui m'a indiqué que maintenant, l'intelligence artificielle allait permettre de créer des séries, vos propres séries télé sur demande. Vite comme ça, moi, je demanderais une autre finale à Game of Thrones. Je m'en suis toujours pas remis, rendu en 2024. Pour vous qui écoutez là, en ce moment, y a-t-il une série qui vous manque fondamentalement puis que vous aimeriez avoir une suite puis que c'est ça que vous demanderiez au Netflix, de l'intelligence artificielle de Netflix là, pour vous en créer une suite ou pour vous créer finalement d'autres péripéties avec vos comédiens préférés ou encore vos amis préférés? Ça peut être du Friends, du Gilmore Girls, je sais pas, Sex and the City, c'est revenu. C'est ça qui me viennent en tête, là. Mais peut-être que vous vouliez encore du minuit le soir. Y a-tu une série télévisée que vous aimeriez revoir dans votre vie, des personnages qui vous manquent, auxquels vous étiez attachés, puis que vous aimeriez tester avec cette intelligence artificielle-là? Je trouve que c'est rendu loin, c'est fascinant en fait, mais vous pourriez demander une série télévisée avec plusieurs saisons avec cette nouvelle plateforme-là. C'est une plateforme qui a été lancée par The Simulation. C'est un projet qui est basé justement sur l'intelligence artificielle. Ça a commencé à être produit en 2023 et c'est une start-up. Alors, on est au tout début. On teste des choses. C'est une start-up américaine, Fable Studio, qui a dévoilé cette semaine qu'il y avait un nouveau portail, le Showrunner, et c'est ce service de streaming-là, Showrunner, qui promet aux utilisateurs de générer des épisodes de séries télé grâce à l'intelligence artificielle, vos propres épisodes de séries télé. Dans le cadre de test, il y en a déjà qui sont disponibles. Vous pouvez aller déjà le consulter. Et ce qu'on dit, c'est que, en fait, c'est Netflix de l'intelligence artificielle. Si tu regardes un épisode, c'est parfait, mais aussi, tu peux en créer un, t'as le choix. Ça a été mis sur pied en 2018. On était quand même précurseur. Puis on commence à le tester depuis 2023. Mais ça attire beaucoup de satire, hein, par contre, parce qu'on se dit, bon, comment est-ce qu'on va faire avec les droits? Comment est-ce qu'on va faire pour recréer des séries sans que les concepteurs initiaux là, qui ont fait ça, qui ont pensé à ça, ne souhaitent pas se retourner contre cette plateforme-là? Est-ce qu'il y aura de l'argent donné? Peut-être un ratio, je ne sais pas. Mais l'objectif semble, comme le jugent certains journalistes, entre autres le Stuart Heritage pour le quotidien britannique The Guardian, que de construire un réseau social comme celui-là où chacun partage son épisode, celui qui a construit, va créer une génération de générateurs, va peut-être créer de nouveaux emplois aussi qu'on n'a jamais vus et que finalement, sans les compétences de production, sans le prix que ça coûte aussi, va permettre à plusieurs utilisateurs de devenir populaires par leur créativité puis ce qu'ils ont dans le cerveau finalement, ce à quoi ils pensent, ce à quoi ils ont envie de créer quelque chose pour les autres, mais ça pourrait justement être confrontant, là. Même, rappelez-vous, là, depuis septembre 2023, on est dans une importante grève de scénaristes à Hollywood. Là, c'est un chemin à emprunter parce qu'il pourrait être, en fait, travailleur autonome, choisir avec qui ils travaillent, choisir leur scénario, créer avec l'intelligence artificielle quelque chose de très performant, mais ça peut aussi peut-être réduire l'intervention humaine au fil des ans. C'est un questionnement qu'on peut avoir. Le contrat des artistes aussi, des techniciens qui pourraient tomber. Non, puis la question de droit est là. On ne peut pas choisir la voix de Brad Pitt comme protagoniste dans son film sans demander peut-être au préalable à l'acteur en question qui attirait assurément foule et visionnement s'il est d'accord, ou encore de le payer. Là, est-ce qu'on aurait, moi, Pascal CV là, qui décide de faire une série avec Brad Pitt dedans, là, j'ai pas le budget pour le payer, d'après moi. Là. D'après moi, il me demandera pas 3,5 pinottes. Là. Donc, est-ce que ça peut stopper? Est-ce qu'on va voir aussi des nouvelles générations d'acteurs boboches? C'est plein de questions qu'on peut se poser, mais je trouve ça fort intéressant, malgré le fait que c'est un petit peu, sans dire inquiétant, différent. Tiens, hein? Différent. Il y a plusieurs personnes qui répondent qui souhaitent des séries, des suites à certaines séries, entre autres Bones, Lucifer. Annabelle dit qu'elle aimerait ça, essayer l'intelligence artificielle avec ça. Nicolas parle de 19-2, comme quoi il s'ennuie 19-2, qu'il voudrait avoir peut-être un peu plus d'épisodes. Mathieu voudrait changer la finale de Lost. Il a dit, quelle perte de temps après toutes les années que j'ai suivi la série. Ben, je sais, moi, j'ai vécu ça à Game of Thrones, je suis encore choquée. Quelle perte de temps. J'étais vraiment offusquée, là, c'est rare. Quelqu'un qui dit, les rescapés, ce serait son choix en fait pour avoir une suite à tout ça. Steve qui dit, moi je voudrais ramener District 31, j'ai adoré ça, ça m'a vraiment tenu pendant plusieurs années, puis j'aimerais ça revenir avec des nouveaux épisodes pour District 31. Shameless est sorti aussi. Qu'est-ce qui est sorti sinon? Cobra Kai. Aucune idée. J'ai jamais entendu ça. Quelqu'un qui dit, j'aimerais ça une suite à la série Carnival. Quelqu'un d'autre qui dit, Stranger Things, genre plus d'épisodes. Minuit soir, quelqu'un qui a dit, c'était tellement bon, je prendrais plus d'épisodes. Bon, ben on pourrait soumettre ça dans l'intelligence artificielle avec la nouvelle plateforme qui a été créée par une start-up américaine. À vos claviers, pour d'autres suggestions. Peut-être on pourrait refaire un petit tour avec la chanson que les gars avaient créée avec l'intelligence artificielle.
Dans les ruelles du Québec, on se quitte et on fait du vélo. La musique résonne dans les rues. La vie est belle, on est tous heureux. Les bars et les cafés s'ouvrent. Les gens se rencontrent et s'amusent. On
à l'aide de quelques clics seulement. Non, ça va aller. On va garder les bons vieux, là, classiques. Les bons vieux créatifs. Ceux qui en ont peut-être trop pris, mais que ça a donné quelque chose d'assez merveilleux. Comme Jean Leloup, qui pour moi a écrit une des plus belles chansons québécoises. Entre autres celle-ci. Balade à Toronto. Ça donne le goût de partir en road trip avec le soleil, hein? 22 degrés à Québec. Profitez-en, montez le son. Ça, je peux pas croire que vous aimez pas ça.
C'est vrai.
Jean Leloup qui nous dit que tout ce qui nous reste, c'est la fierté d'avoir aimé correctement. Non, mais c'est quoi ces paroles-là? C'est pas du génie, c'est pas poétique. On l'aime, Jean Leloup. Un être exceptionnel. Si vous n'avez pas lu la biographie qui a été faite sur lui, un livre qui est sorti l'an dernier, si je ne me trompe pas, c'est un très beau et important livre, je trouve, pour tous ceux qui trippent sur la musique. Là. Ça a été fait par un journaliste aguerri qui a vraiment été extraordinaire dans son travail. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Je vous le conseille, puis allez l'emprunter dans une bibliothèque près de chez vous, si jamais. Suggestion pour en fin de semaine, si vous aviez des plans au soleil et que ça tombe, puis simplement, si vous avez la curiosité de... C'est sûr que c'est quelque chose que, personnellement, je trouve toujours magnifique à voir dans les yeux des enfants, les visite des casernes de pompiers. En fin de semaine, la Ville de Québec va ouvrir ses casernes de pompiers sur tout le territoire. C'est samedi de 9h à 16h. C'est une belle activité pour les familles, pour les curieux, pour ceux qui veulent peut-être se lancer dans une carrière en incendie. En fin de semaine, samedi, 9h à 16h, les casernes sont ouvertes. Vous arrivez là, pas besoin de rendez-vous. Puis les pompiers qui ont été déterminés pour vous faire faire les visites seront sur place. Dans l'actualité, il y a beaucoup de choses à mentionner. Entre autres, la policière Isabelle Morin. On pensait que ce cas-là était réglé, c'était terminé, on n'en parlerait plus nécessairement. Mais c'est revenu dans des articles de Radio-Canada, entre autres, parce qu'elle contourne provisoirement le chemin de la prison. Ce qu'on dit, c'est que la cour d'appel a établi hier que la policière Isabelle Morin, qui a perdu sa cause devant le plus haut tribunal du Québec dernièrement, mais qui a porté sa sentence d'un an de prison en appel, peut attendre en liberté le temps que la question soit tranchée. Donc, la policière de la ville de Québec, qui a été condamnée à 12 mois de prison ferme au mois d'avril dernier pour, je vous rappelle, avoir causé la mort de Jessie Drolet, motocycliste sur l'autoroute Laurentienne. Elle était jusqu'à maintenant en liberté sous condition. Le 31 mai, on a confirmé la condamnation d'Isabelle Morin pour conduite dangereuse ayant causé la mort. On lui a ordonné de se livrer aux autorités carcérales au plus tard hier pour purger sa peine. Mais une nouvelle décision qui a été rendue hier aussi et qui affirme que la Cour accepte d'attendre l'appel de la sentence prononcée par la Cour du Québec en avril. Donc, elle a entrepéri une nouvelle démarche judiciaire motivée par le souhait de purger sa peine dans la société. Donc, on a fixé la cause au 25 octobre prochain. On est revenu avec cette cause-là dans l'actualité. On pense aussi à tous les projets de Jessie Drolet qui doivent en avoir plus que ras-le-bol de gérer tout ça, surtout avec la peine d'avoir perdu un être cher. Coupable d'un féminicide dans Charlevoix, je vous parle d'Éric Levasseur. Il est à l'ombre pour au moins 18 ans pour son horrible crime, c'est ce qui a été caractérisé en cours. Horrible crime. Il est coupable du meurtre de sa conjointe, Caroline Labonté, dans Charlevoix. Il va purger au moins 18 ans de prison pour ce crime-là. C'est ce que dit le juge et même il est allé plus loin. Il a dit que c'est un crime d'une insensibilité glaciale. Peine sévère qu'a prononcé aujourd'hui le juge Carl Thibault. Ça vient de tomber, en fait, à l'endroit de cet homme-là qui a maintenant 49 ans, condamné à l'emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au deuxième degré. Il demandait, lui, à être éligible à la libération conditionnelle après 13 ans. Par contre, on a dit qu'il y a des facteurs aggravants qui sont nettement supérieurs aux facteurs atténuants et on s'est rangé du côté de la couronne parce que la couronne, elle, recommandait une période d'inéligibilité entre 18 ans et 20 ans. Et là, on a vu dans la preuve que Caroline Labonté, victime, a été sauvagement abattue par Éric Levasseur. Il a tiré un projectile à l'arrière de la tête de la victime qui était sans défense et il a enlevé la vie à cette personne-là sans histoire. Il a tenté de camoufler son crime en suicide. Il y a des gestes de l'accusé qui démontrent qu'il n'y avait pas de sensibilité. Donc, ce qu'on a pris comme terme du côté du juge, c'est insensibilité glaciale. C'est très percutant. Et un manque de respect total envers la personne humaine. Ça aussi, ça a été dit. Donc, la femme de 40 ans qui avait été retrouvée, je vous rappelle, avec une importante blessure par arme à feu derrière la tête dans la salle de bain du domicile familial de Notre-Dame-des-Monts. Ça, c'était en 2021. Éric Levasseur avait été trouvé coupable par un jury. C'était 12 jurys le 28 février dernier, mais la défense porte en appel le verdict. Il y aura plus de détails à venir, mais voilà un peu plus d'informations sur cette cause-là. Il y a un homme aussi qui va faire jaser aujourd'hui. Je pense qu'on va en reparler dans Marceau le midi, mais il y a un entrepreneur qui a refusé de signer une entente de confidentialité avec la BMO dans un dossier de remboursement par sa banque parce qu'il s'était fait subtiliser 42 000 $ dans son compte et on faisait rien jusqu'à temps qu'on dise « Moi, je ne signerai pas une entente de confidentialité. » Même que ça se peut que j'aille dans les médias. Et c'est là que ça a bougé. Ce genre de cas-là, j'aime pas bien ça. Parce que vous n'avez pas, si vous avez une cause en main ou un problème en main, à faire des menaces d'aller dans les médias pour être, en fait, répondu et intéressant pour une entreprise à dénouer votre problème par menace. Ça, on s'entend. Céline Dion peut-être à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Oh, la rumeur se veut. Jeux olympiques de Paris. Est-ce que ça serait son grand retour sur scène? Ce serait merveilleux. Après beaucoup de problèmes de santé, de revenir pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Rumeur qui affole la presse française. Vous savez, ils sont complètement fous avec Céline Dion. Et je prends ces termes-là et je les assume. Parce que si Céline Dion vient ici dans nos rues, il n'y a personne qui va y arracher son linge. Mais regardez un peu comment les fans du côté de la France agissent avec elle. C'est pas tous les fans qui font ça, mais quand même, ça se déchaîne. Et selon, je vous jure, c'est tellement bon, là, ce titre de média-là, selon Le Canard enchaîné, le gouvernement français signerait un chèque de 2,7 millions d'euros au comité organisateur pour permettre de se payer deux immenses vedettes pour le spectacle qui va avoir lieu le 26 juillet prochain, le spectacle étant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Et la rumeur va bon train, comme quoi peut-être que Céline Dion ferait une apparition aux Jeux olympiques. Et soulignons 80 ans du débarquement de Normandie. J'en ai parlé en ouverture d'émission. J'en ai fait, je pense, un commentaire que je souhaitais faire, en fait, là-dessus. Salutations à tous nos militaires, salutations à tous nos vétérans. Merci pour tout. Et aussi, je dois dire, merci aux familles de ces vétérans-là, militaires-là, qui vivent un quotidien qui n'est pas comme le nôtre, qui est différent, qui les appuie dans tout ça et qui sont d'un soutien incommensurable. Merci aussi à tous les patrons, à tous les hauts gradés dans le militaire qui permettent d'aller chercher de l'aide. De plus en plus, la santé mentale, les traumatismes, les post-traumatiques deviennent quelque chose qu'on peut aborder, en fait, de moins en moins tabou avec les militaires. Puis je pense que ça, ça prend des bons patrons pour permettre une ouverture totale, puis un sentiment de sécurité, un sentiment d'aisance pour les militaires pour en jaser, parce que c'est pas tous les militaires qui ont eu, la même aventure. Et je pense qu'ils méritent absolument toute l'aide possible, si jamais aide est nécessaire. Merci à vous. Merci à tous. Merci aussi aux auditeurs d'avoir été dans leur CV. C'est un bonheur pour moi de vous avoir accompagné. Puis on va finir ça en beauté. Sous le soleil, ça va être Coriace avec Printemps et Jay Scott avec Un peu trop vite. Et nous, on se retrouve dans un instant dans Marceau le midi. Et je lui ai préparé, entre autres, un dossier suivi d'une étude qui permettrait de savoir, au regard et à une simple analyse entre un couple, s'il va perdurer ce couple-là. Ouais, on a été capable de définir comment est-ce qu'on peut observer si un couple, dans l'avenir, va faire une histoire complète ou une histoire abrégée. Mais là, allons-y pas avec une observation peut-être de 7 maîtresses en arrière. Là. C'est sûr, ça pourrait un petit peu moins fonctionner. On n'est pas là-dedans. Printemps de Coriace. À tout de suite dans Marceau midi. Hey, merci d'avoir été là.